Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là en cette fin de matinée, en ce samedi 18 avril sur votre radio locale pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une émission que nous avons confectionnée en puisant dans les archives de Wagon Livre. En effet, depuis bientôt 10 ans que Wagon Livre existe sur l'antenne de Radion, nos émissions sont classées et bien évidemment précieusement conservé. Et c'est dans cette riche et variée bibliothèque sonore que nous avons sélectionné des extraits d'interviews aujourd'hui de celles et ceux que nous avons eu le bonheur de recevoir devant notre micro. Et je vous propose d'ouvrir ce wagon livre avec Françoise Collin. Françoise Collin est une personnalité bourguignonne, une passionnée de gastronomie et pour cause, puisque elle a épousé Henri Collin, qui était le chef du restaurant Le Pré au Clair, place de la Libération à Dijon. Françoise Collin a publié un certain nombre de livres de recettes. On mentionnera notamment aux éditions Cléa les recettes bourguignonnes. Et Françoise Collin, que j'ai rencontrée en août 2011 au Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains, la station thermale de la Nièvre. Eh bien, Françoise Collin, ce jour-là, parmi ses différentes publications, présentait aussi un petit livre intitulé « Déjeuner intime à l'Élysée ». En effet, Françoise Collin a eu l'occasion de déjeuner à l'Élysée aux côtés de François et Daniel Mitterrand le 26 janvier 1984. Et j'ai demandé à Françoise Collin « Mais que faisiez-vous donc à ce déjeuner à l'Élysée ?» Tout de suite, Françoise Collin.
Une question que je me suis posée moi-même. Parce qu'en arrivant à l'Élysée le matin, nous étions conviés. Je me disais, mais pourquoi moi je suis là? J'étais l'amie et la compagne de Lucien Erard, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Et il était l'ami très proche depuis longtemps de Roger Gouze, le frère de Daniel Mitterrand. Et un jour, nous avons été conviés tous les deux. Nous étions 8 à table. Pour moi, un privilège. Et comme vous dites, je me posais la question, que suis-je en train de faire là, la main du président de la République tout près de la mienne sur la table, sur la nappe? Eh bien, quand je suis rentrée chez moi, il a fallu que je raconte ces moments étonnants, surprenants.
Alors, est-ce que je peux vous demander de communiquer aux auditrices et auditeurs de Radion le menu au déjeuner donc du 26 janvier 1984 auquel vous étiez conviés?
Mais je vous dis, nous étions 8 à table. Alors le président de la République et Madame Daniel Mitterrand ont pris place. Nous avons entendu qu'ils soient assis l'un et l'autre. Et quand on a regardé le menu, moi je vois déjeuner du 26 janvier 1984. Ragoût d'huître aux poireaux et aux jus de truffe. Et l'un et l'autre, le président et Madame, ont mangé des huîtres nature. Ils nous ont dit, nous faisons du régime. D'abord, avant de nous asseoir, il y avait le frère de Daniel Mitterrand, qui était à ma droite, le président à ma gauche, Gilbert Mitterrand, qui était là, mon ami Lucien Erard, et deux autres personnes, journalistes. Et Daniel, François Mitterrand s'est assis le premier, et il a dit, la famille, entourons nos amis. Bon, nous nous sommes assis. Alors je vois donc ragoût d'huître, mais eux les mangeaient nature. C'était des belons impériaux de toute beauté. Puis nous avions un rognon de veau romarin, des pommes à la peau. C'était la pomme cuite au four, et coupée en tranches et séchée au four. Alors sur le rognon, il y avait des petits brins de romarin frais. C'était au mois de janvier. C'était amené, le romarin frais, on en trouve, bon. Puis le fromage, et alors le dessert, c'était amusant parce que nous avions un petit soufflet chaud sur une assiette de salade de fruits exotiques. Et nous avons été gâtés parce qu'on avait un pouilly fumé et un Saint-Amour. Quand M. Mitterrand et Mme Mitterrand n'ont bu que de l'eau, mais nous sommes régalés avec les vins, voilà. et notre ami Roger. Je le raconte, ça. Nous devions être conviés à table, on a attendu, nous sommes passés à table et on se disait, le président, très occupé, va s'en aller, mais non, pas du tout. Il nous a, on a pris le café à table et il nous a raccompagnés dans notre salon où nous avons discuté, nous avons été quand même 2h30 avec le président de la République, que beaucoup de soucis retenaient ailleurs.
Eh bien, dites donc, cher François Scollin, mon Dieu, quel privilège aussi de vous entendre nous raconter cela au micro.
Je ne le dirai jamais assez.
Et alors, parlez-nous une petite anecdote sur les Gougères, dont l'origine est véritablement tonnerroise.
Le tonnerre, oui, nous le concevons, c'est vrai. Alors, j'ai donné des recettes de cuisine, mon passé de restauratrice. Je suis quand même restée 30 ans dans ce restaurant et j'ai toujours consacré tout mon temps à la gastronomie. Et ce livre de recettes que les éditions Cléane, à mon amie Nathalie Brester, a publié d'une façon originale. Si vous regardez les photos, c'est une présentation qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais fait précédemment. On vous présentait une assiette avec le mets cuisiné, tandis que là, souvent, vous trouvez le mets, tous les ingrédients qui vont vous servir pour la réalisation de la recette, et c'est prêt. Bon, ça n'est pas cuit encore. Et j'ai donné des recettes pendant 3 ans dans notre journal local, Le Bien Public, dans le supplément, tous les vendredis. Et j'avais toujours ajouté une anecdote. C'était mon côté, j'adorais ça. Alors le jour, c'était la Saint, je ne sais pas quoi, il y avait une anecdote sur un saint. Et il faut dire que l'almanach de gastronomie de Christian Guy m'a beaucoup aidé. Et le jour où j'ai fait la recette des gougères, j'avais mis cette anecdote. Napoléon, c'est raconté par Novéraz, il était le valet et le courrier de Napoléon. Et pendant que Napoléon était à Sainte-Hélène, son cuisinier, marchand, lui fait des gougères. Il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de gruyère, il n'y avait pas de comté, il a fait avec du cheddar. Et Napoléon, il dit, quand j'étais lieutenant d'artillerie à Aussonne, c'est tout à côté de Dijon, Madame Noiseau, sa logeuse, réussissait de merveilleuses gougères. Mais moi, je n'avais Dieu que pour sa fille, Catiche, mon premier amour. Et on ajoutait, c'est Novéraz qui raconte que tous les soirs, avant de monter dans sa chambre, il glissait un petit billet sous la porte de la jeune fille. Et un soir, le papa s'en aperçoit et le prend par le bras. Il lui dit « Ma fille n'est pas pour un petit lieutenant comme vous. » Il ne savait pas ce qu'il attendait.
À l'instant, c'était François Scollin, enregistré en août 2011 lors du Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre. Hein, Saint-Honoré-les-Bains, station thermale très au sud de Château-Chinon. François Scollin, personnalité bourguignonne, auteur notamment avec Lucien Hérard de livres consacrés à l'art culinaire de Bourgogne et de Franche-Comté. Et François Scollin a écrit aussi des ouvrages d'érudition dont l'un est consacré à l'écrivain Marcel Rouff. Marcel Rouff est un écrivain né en 1877, mort à Paris en 1936, et il a fait paraître en 1920, c'est-à-dire il y a un siècle maintenant, un roman intitulé « La vie et la passion de Dodin Bouffant Gourmet ». Alors effectivement, dans ce roman, le protagoniste s'appelle Dodin Bouffant et Françoise Scollin a effectivement un véritable coup de cœur pour ce fin gourmet cuisinier qui apparaît dans ce roman que l'on peut se procurer un siècle après dans la collection Motif aux éditions du Serpent à Plumes. Il y a eu d'ailleurs même une adaptation BD qui a été réalisée par Mathieu Burnia chez Dargaud sous le titre « La passion de Dodin Bouffant ». Voilà. Et je voulais effectivement partager avec vous ce souvenir littéraire autour du roman de Marcel Rouff, « La passion de Dodin Bouffant Gourmet » de Marcel Rouff. Alors il y a un épisode fameux qui est celui au cours duquel Dodin Bouffant sert au prince d'Eurasie un pot-au-feu qui va laisser bien sûr une trace absolument indélébile. Et puis Marcel Rouff, je voudrais citer ce fin gourmet et ami de Kurnonski, voici ce qu'il écrivait. « Partout ailleurs, on se nourrit, en France seulement, on sait manger. » C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Nous marquons, si vous le voulez bien, une première virgule musicale et on se retrouve juste après pour évoquer le général Boulanger, cet date, effectivement, Pierre Basset qui nous en parlera. Pierre Basset qui est l'auteur d'un livre intitulé « La Troisième République, une république qui n'a pas su se faire aimer ». Très bonne fin de matinée sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Envoie tout, sa tête rentrée, resserrée dans tes épaules. Là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. Ces mêmes traits d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. Jamais su danser, jamais tu laisses aller.
Envoie tout,
la tête renversée.
Envoie tout,
t'engager au lit, laisse-toi un jour embarquer. T'es bien engourdi, de bloquer. Jamais su danser, t'as jamais su glisser.
Envoie tout,
t'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller.
Envoie tout,
la tête renversée.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
À l'instant, c'était Ours sur Radion, jamais su danser. La suite de votre émission littéraire, Radio Archive Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Une petite page d'histoire, cette fois-ci avec Pierre Basset. C'est un extrait d'une émission diffusée en janvier 2011 sur votre radio locale. Pierre Basset, que je recevais devant le micro de votre émission littéraire, pour y présenter un livre d'histoire intitulé « La Troisième République, une république qui n'a pas su se faire aimer 1870-1940 ». Pierre Basset est ingénieur topographe de formation, journaliste par passion, et il a su conserver un regard critique et aiguiser son esprit d'analyse dans sa carrière comme dans sa vie. Parisien pur souche, ce fils de famille nombreuse a connu la guerre à travers son regard d'adolescent. Et Pierre Basset, dans son ouvrage, nous offre un étonnant voyage dans le temps pour nous éclairer sur l'action de l'individu qui peut agir sur les événements et faire preuve de responsabilité face à la collectivité. Et au cours de l'entretien, nous avions évoqué un grand nombre de personnages importants de cette Troisième République qui a été très longue puisqu'elle s'étale sur 70 ans, hein, de 1870 jusqu'à la défaite de 1940. Et j'avais demandé à Pierre Basset de revenir sur la figure pittoresque et haute en couleur du général boulanger Pierre Basset, un extrait d'un wagon-livre diffusé en janvier 2011.
J'aime beaucoup cette histoire, figurez-vous. Et le général Boulanger est arrivé à un moment où, effectivement, vous venez de le dire, les gens se demandaient, mais finalement, qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous ? Il y avait, en effet, la vacance, un sentiment général d'admiration qui reste vacant et employé. Alors surgit le général Boulanger. Alors, ça avait été un condisciple de Clémenceau au lycée de Nantes, mais il avait grimpé très vite dans la hiérarchie militaire, et finalement, c'était un militaire de qualité. Et c'était un chef, absolument. Il était très patriote. Il s'affirme républicain convaincu, il en rajoute. Et l'homme est sympathique. Mais il avait, comme le dit André Mauroy, l'instinct de la publicité tapageuse. Alors il se fait acclamer lors de la revue du 14 juillet 1886, qui était devenue fête nationale depuis 5 ans, en paradant devant ses troupes sur son superbe cheval noir. Bon, il a un passé brillant. Ses succès militaires en Kabylie, en Cochinchine, sa conduite pendant la guerre de 70 sont connus. On choisit comme ministre de la guerre, car il a dit qu'il fallait dépoussiérer l'armée, qu'il fallait moderniser l'armée. Et puis Clemenceau et son ami, comme c'est un éternel contestataire, Clemenceau, c'est aussi bien de l'avoir avec soi, ce boulanger. Voilà donc ce beau général bien en place pour être en vue. Alors, bon. Il réorganise, il fait du bon travail, il fait du bon travail.
Il refond les services secrets, il crée le génie, puis il a introduit le fusil Lebel dans notre armée.
Exactement, vous savez très bien.
Je vous ai lu.
Mais alors le voilà servi par un événement extérieur qui sort à monter en épingle à son profit. C'est l'affaire Chebele, en avril 87. Alors il s'agissait d'une provocation de la police allemande, un incident de frontière provoqué par les Allemands. Ce n'était pas acceptable, c'est exact. Mais Boulanger en fait à ce sujet des déclarations fracassantes. Il devient le héros de la revanche. Bon, l'affaire s'est arrangée diplomatiquement, mais malgré tout, l'affaire Chebele fut classée comme a permis à Boulanger d'atteindre là le sommet de sa gloire. Il devint l'homme qui a fait reculer Bismarck. Alors on voit, c'était tout à fait inexact. Mais enfin, une majorité de Français trouvait là le héros à admirer, et des gens comme Maurice Barrès et des gens comme Rochefort, Henri Rochefort, qui sont de courants politiques tout à fait différents. Bon, mais alors le gouvernement là trouve que Boulanger commence à devenir gênant. Alors il faut s'en séparer, on s'en sépare. Il n'est plus ministre, il reprend son service dans l'armée. Pour l'éloigner de Paris, on l'envoie commander les armées d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Clameur générale chez les boulangistes. On se met sur les voies. On se met sur les voies pour empêcher le départ du train. Bon, on doit faire intervenir la troupe. Bon, Boulanger est à Clermont-Ferrand. Mais il reste toujours aussi populaire. Alors finalement, on ne sait pas quoi en faire. On le met à la retraite un peu rapidement. Et c'est une erreur, car n'étant plus militaire, il devient civil et il devient éligible. Il est élu par deux fois. Comme à chaque fois qu'il y a une vacance, vous savez, de député, il se présente et il est élu. Et la deuxième fois, c'est à Paris. Il a un score que personne n'a jamais eu. Voilà notre boulanger, le héros national du jour. Et tout le monde est là, tout le monde crie à l'Élysée, à l'Élysée. C'est un triomphe. Alors la police n'ose pas intervenir. Et dans son bureau, ça n'est plus Jules Grévy qui a démissionné peu de temps avant. C'est maintenant Sadi Carnot qui est là. On demande à Sadi Carnot qu'est-ce qu'on fait. Sadi Carnot lui répond, on ne fait rien. Et effectivement, il a raison. Boulanger ne va pas à l'Élysée. Boulanger retourne dans l'hôtel particulier de sa bonne amie, Madame Bonnemain, Et il dit, je reviendrai plus tard, mais il ne reviendra jamais. Finalement, on lui glisse qu'on va peut-être le faire arrêter, et il s'exile, part à Bruxelles. Il ne reviendra que 3 ans plus tard pour se tuer d'un coup de revolver sur la tombe de cette pauvre Madame Bonnemain qui était morte tuberculeuse peu de temps avant. Ainsi se termine l'affaire Boulanger. Et au fond, on retombe soudain dans le romantisme pur. On pense à Alexandre Dumas, fils, avec sa dame aux camélias. Et aujourd'hui encore, le mystère demeure. C'est ça qui est étonnant. Boulanger fut-il ou non dangereux pour la République ? Faut-il croire ou non que Boulanger était prêt à faire un coup d'État et qu'il en fut dissuadé par sa maîtresse ? Ou n'en eut-il jamais la volonté ? À chacun de répondre. Pour ma part, je n'y crois pas qu'il ait jamais voulu, eu le courage, eu la volonté de dominer le pays.
La figure et l'action politique du général Boulanger, expliqué par Pierre Basset, c'est un extrait d'un wagon-livre diffusé en janvier 2011. Pierre Basset, dont je rappelle le titre de l'ouvrage, « La Troisième République, une république qui n'a pas su se faire aimer, 1870-1940 ». Un livre d'histoire absolument passionnant qui nous fait parcourir une étonnante galerie de portraits de ces grands hommes qui ont marqué la Troisième République. L'ouvrage est disponible aux éditions In Octavo. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale à bord de ce radio-archive wagon-livre et nous nous retrouvons juste après avec Jeannine Bardonnet pour évoquer l'histoire de la création du lac des Sept-Onts. Ce très beau lac situé dans la Nièvre. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans quelques minutes et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Et dans ma tête j'ai rêvé de ce monde. Je me suis vu grande, je dépassais toutes mes angoisses, moi et mon audace. Et dans ma tête j'ai créé tout un monde. J'ai vu grand, mes envies étaient de plus belles. Sur mon navire j'étais seule. Et dans ma tête j'ai voulu être forte et de haute. Mais j'ai pas vu la marche et la poisse. À moi ça m'agace. Et dans ma tête je pensais que je pourrais m'enlever. La blessure est profonde, j'ai mal, c'est dommage. Voilà comment je vais crever. J'ai rien vu et j'ai pas venu. Je suis pas la bienvenue. Rendu-moi là, je suis foutue. J'ai perdu, j'ai pas anticipé. Maintenant je pleure, je suis pas venue là pour souffrir. Ok. Et dans ma tête j'ai cru que j'étais partie. J'arrive en fait au début de la fin, du milieu de ma folie. Je crois que je suis paumée. Et dans ma tête, je voudrais un GPS qui me guide. Je crois que ça pourrait m'aider pour avancer. Car là, j'ai pas bougé. J'ai rien vu et j'ai pas venu. Je suis pas la bienvenue. Rendu-moi là, je suis foutue. Ça y est, ça y est. J'ai perdu, j'ai pas anticipé. Maintenant, je pleure, je suis pas venue là pour souffrir.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous à bord de ce Radio Archive Wagon Livre en cette fin de matinée sur Radion. Je vous propose maintenant de réentendre Jeannine Bardonnet. C'est une émission assez ancienne de Wagon Livre et je dirais même qu'elle a été diffusée le 3 novembre 2010 sur l'antenne de Radion, c'est-à-dire que ça a été le premier numéro de Wagon Livre. C'est donc un numéro véritablement historique auquel je suis particulièrement attaché. Et j'y recevais notamment Jeannine Bardonnet, agrégée de philosophie, enseignante puis directrice d'école normale, aujourd'hui à la retraite. Jeannine Bardonnet rendait hommage au Morvan, où elle est née, et aux rives du lac des Sétons dans la Nièvre qui l'ont vu grandir. Alors dans son ouvrage intitulé « Le lac des Sétons, son histoire d'hier à aujourd'hui », elle y retraçait l'histoire de ce lac artificiel, elle y relatait les différentes phases de construction du fameux barrage et elle évoquait le développement touristique de ce joyau morvandieu de 1850 à nos jours. Tout de suite, Jeannine Bardonnet, c'est un extrait d'un wagon-livre diffusé sur l'antenne de Radion le 3 novembre 2010.
On sait que les eaux de la Cure affluent de l'Yonne, l'Yonne affluent de la Seine, et on sait très bien que l'Yonne, on a appris ça en géographie quand on était petit, l'Yonne, enfant terrible de la Seine. Bon, et on sait bien que la Cure, l'Yonne, avait un débit très irrégulier. Et donc, le barrage du lac des Sétons a été bâti sur la Cure pour régulariser l'eau de la Cure, gonfler les eaux au moment où partaient les trains de bois sur l'Yonne, puis sur la Seine et sur Paris. Voilà. Il a été bâti pour cela.
Donc il est inauguré,
oui,
en 1858. Donc après, comme vous l'avez expliqué, il y a eu une deuxième phase de travaux, donc de consolidation. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience que le barrage pourrait remplir une fonction hydraulique.
Oui, alors on se rend compte à ce moment-là surtout qu'il ne remplit guère la fonction utile au flottage des bois. Parce qu'au tout début du siècle, Paris apprend à se chauffer avec le charbon du Nord, des mines du Nord, et le flottage du bois tombe petit à petit en désuétude. Je veux dire, entre 1900 et 1910, en gros, on a vu tomber ce commerce du flottage du bois et cette pratique industrieuse, je dis bien industrieuse, pas industrielle, mais du flottage du bois. Donc le lac des Sétons n'a pratiquement pas servi à cela. Et par contre, il a servi très vite, étant donné la beauté du paysage qui s'installait là tout autour, enfin en amont de la digue, il a servi très vite de lieu de tourisme.
Alors d'abord c'est la pêche, ça a été un petit peu le point de départ, c'est la pêche, l'activité de pêche.
Oui, la pêche qui est pratiquée à la fois par les autochtones et par les touristes. Mais il s'était monté à l'époque, là, dans les années 1900-1910, il s'est monté deux magnifiques hôtels, la Morvandelle qui existe encore, mais qui... Enfin, voilà, qui n'existe encore. Et puis, plus loin, mais toujours sur la rive gauche, le lac de Beaurivage, d'où vous avez un point de vue sur le lac absolument extraordinaire. Mais ça n'est plus un hôtel, hein, c'est une colonie de vacances maintenant. Mais voilà, ces deux hôtels se sont montés à ce moment-là. Et les hôtels étaient fréquentés par un tourisme...
Mondain.
Très, très mondain. Alors, il y avait l'hôtel du lac aussi, qui lui avait été construit côté rive droite et en aval.
Donc, l'hôtel du lac, actuellement, c'est
l'hôtel des Grillons.
Les Grillons du Morvan.
Voilà. Les deux hôtels les plus anciens, c'est l'hôtel du lac en premier et puis l'hôtel de la Morvandelle après. Voilà. Et les gens qui venaient là étaient ou bien des intellectuels qui s'y reposaient, genre Charcot, qui est mort à l'hôtel des Grillons aujourd'hui.
Alors Charcot, donc le docteur, ami de Freud, et qui meurt donc...
Qui meurt là,
À l'hôtel, l'actuel hôtel des Grillons du Morvan.
Oui.
Il meurt, je crois, en 1893.
Oui, peut-être bien.
Alors il y a Jules Renard aussi, qui vient se promener au bord du lac des Sétons et qui dit, je le cite, « Nous sommes allés au Séton voir tomber la pluie. »
Ah, je trouve ça délicieux. Tant de gens qui disent « Oh, il pleut toujours au 7 ton ». Mais oui, chers amis, il pleut.
Mais c'est le spectacle de la pluie.
Et c'est merveilleux. Il y a un spectacle de la pluie au 7 ton que moi j'apprécie, vraiment.
Alors enfin,
donc, des touristes plutôt mondains, plutôt...
Le tigre. Le tigre.
Le Clémenceau. Tigre, le tigre Clémenceau est venu au 7 ton, oui.
Alors vous mentionnez aussi quand même le sculpteur Pompon.
Oui, bien sûr.
Francis Poulenc. Dont la nourrice était installée à Anost.
Oui, j'ai entendu contester cela par des gens d'Anost et je ne sais pas, mais je l'avais lu quelque part.
Roland Topor, dont les parents ont une maison à Goulou.
Du côté de Mou, je
proche
crois.
De Goulou.
Proche de Goulou, proche de Goulou. Entre Mou et Goulou.
Jeannine Bardonnet, on a bien compris que le lac des Sétons et ses charmes avaient attiré un tourisme mondain et un grand nombre de Parisiens. Et notamment, on voit dans les années 30, au bord du lac des Sétons et parfois même pêchant au lac des Sétons, un célèbre personnage qui d'ailleurs a été un véritable escroc, c'est Stavisky. Et c'est lui d'ailleurs qui va offrir son bateau à un jeune adolescent qui réside sur les bords du lac des Sétons.
Il offre en partant son bateau à ce jeune Pierre Gadret, qui doit avoir à ce moment-là 16-17 ans, hein, et puis qui fréquente l'hôtel Beau Rivage, parce qu'il y apporte le menu fretin qui est utilisé par les pêcheurs, vous savez, les tout petits poissons transparents là, qu'on pêche dans les ruisseaux.
Les petits alevins.
Les petits alevins, voilà, des petits alevins, des petits vers de terre, la débrouille, hein, c'est un fils d'agriculteur, et Pierre, malin, comme un gamin de là-bas, porte ses petits asticots et tout ça à ces messieurs qui font de la pêche. Et Stavisky pense que ce petit gars, il n'est pas bête quand même, il est dégourdi, il dit écoute, je te laisse mon bateau. Bon, alors lui, il ira se faire tuer.
Il se suicidera, dans un chalet à Chamonix, je crois,
voilà,
oui, avant
oui,
que la police ne vienne l'arrêter,
voilà.
Au début des années 30.
Au début des années 30, voilà. Et à ce moment-là, Pierre Gadret, il a le bateau. Hein. Et c'est le moment où il va commencer à... il promène, il n'est pas tout seul d'ailleurs, à promener les gens dans des petits bateaux, mais lui va être le premier, me semble-t-il, à demander le permis de promener sur le lac plus de 10 voyageurs. C'est le début des vedettes que nous avons maintenant sur le lac.
Et il va devenir Pierre Gadret, connu sous le nom de
l'amiral. Ah oui, dans la gazette Le Morvandiau de Paris, de l'époque, on parle d'une visite au 7 ans sous la conduite de l'amiral. Ça vaut son pesant d'or. Hein.
L'amiral, la rime à quoi? La rime à rien, aurait dit Prévert.
Absolument. Et l'amiral, à un moment donné, dit à un de ses amis, qui s'appelle Claude Bosset, « Ah, tu sais, fils du caïphat, d'un caïphat du côté de l'Autunois. »
Alors, voilà. Un caïphat, c'est un épicier ambulant, vendeur de café, c'est ça,
entre
initialement
autres. Oui,
entre autres.
Oui, d'accord. Oui, tout à fait.
Un caïphat, un C-A-I, tréma, deux F-A.
Voilà. Et donc, il dit à Claude Bosset, qui est fils d'un caïphat de l'Autunois ou du Charolais, en fait, c'est pas trop doux, il lui dit « Tu devrais venir, tu sais, il y a de la place pour deux ici. » C'est joli, quoi. Ils ont démarré ensemble au même embarcadère, tous les deux, Bosset, Gadret. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? On est victime d'une évolution de la société qui fait que, quand on est en concurrence, les choses ne vont plus aussi bien. Les amitiés s'effacent devant la concurrence. C'est humain. On voit ça partout. Et on le voit encore aujourd'hui.
Mais on peut dire que ces deux familles, Gadret et Bosset, sont tout de même à l'origine du tourisme hôtelier autour du lac des Sétons. C'est incontestable.
C'est incontestable. Voilà. La famille Gadret est d'ailleurs à l'origine de la création d'un des plus grands campings en Bourgogne. Le premier, d'ailleurs, grand camping en Bourgogne. Ça, c'est dû à la famille Gadret. La famille Bosset, par contre, en plus donc de promener les gens, d'avoir des pédalos, de faciliter la promenade nautique.
La plaisance.
La plaisance sur le lac. En plus de cela, les deux familles se sont orientées vers comment accueillir les gens. Alors, le camping du Midi date de l'époque où le camping sauvage a été interdit, parce qu'il y a eu un temps où il y avait un camping sauvage extraordinaire tout autour du lac des Sept Ans, puis il a fallu l'interdire pour des raisons de pollution des eaux du lac. Hein. Maintenant, on est, comment on appelle ça, village... station verte.
Station verte.
On est station verte. Tant l'eau est pure et quand même maintenant, et saine, ouais. Voilà. Donc, eux se sont orientés vers ça, vers camping, construction de chalets, etc.
Alors, je vous interromps, Janine, pardonnez. La villa des Fougères, qui en fait l'acquisition? C'est les Bosset, c'est les Gadret?
C'est les Bosset.
Alors, cette villa voit défiler un acteur un peu chouchou des Français, Yves Montand. Y a séjourné.
Oui.
Et puis, alors, un homme quand même dont on doit parler quand on parle du Morvan,
oui.
C'est quand même celui qui a été conseiller général du canton de Monsonge. Alors là, ça donne déjà un indice pour nos auditeurs. Vous, Janine Bardonnet, vous savez déjà de qui il s'agit. Il a été maire de Château-Chinon et puis il est devenu
François
le président socialiste, François Mitterrand, qui a toujours gardé un attachement très fort pour le Morvan, pour la Nièvre, bien
absolument,
sûr.
Absolument. D'ailleurs, c'est à François Mitterrand que le lac des Sept Ans doit la construction d'une station de sport nautique appelée à ses débuts par dérision par les Morvandiaux. Quand ils ont vu monter cette espèce de bâtiment qui ne ressemble à rien par rapport à nos maisons de pierre.
On est bien d'accord, oui.
Les Morvandiaux, rigolards comme ils peuvent l'être, ont dit, bon, quoi que c'est-il donc ce machin-là, soit une pagode.
Le lac des Sept Ans, son histoire d'hier à aujourd'hui, tel est le titre de l'ouvrage de Janine Bardonnet que vous venez d'entendre il y a quelques secondes. Janine Bardonnet, agrégée de philosophie, enseignante, directrice d'école normale, aujourd'hui à la retraite. Et c'était un extrait du premier numéro de Wagon Livre diffusé sur l'antenne de Radion. C'était le 3 novembre 2010. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale avec Calogero. Et juste après, nous pourrons réentendre Xavier Bazo, écrivain que j'avais rencontré en juillet 2010 à Vézelay alors qu'il était en résidence d'écriture. Dans l'extrait que nous vous proposerons tout à l'heure, il y évoque son activité d'écrivain et aborde le thème du nomadisme, puisque Xavier Bazo était et est toujours particulièrement attentif aux personnes qui ont choisi le nomadisme comme mode de vie, ce qui lui permet aussi d'expliquer ce mode de vie en évoquant le thème de la castration. Mais tout cela est à découvrir après la pause musicale. C'est Wagon Livre, Radio Archive. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion et nous vous remercions d'être avec nous. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo. On a éteint les chaînes d'infos. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si on fait comme on. La Être si loin nous rapproche. Même pour parler de rien, du bleu du ciel, surtout donne-moi des nouvelles. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on. Vient la nuit, en fermant les yeux, on fait comme si ce monde était encore heureux. On fait comme si on n'était pas là, parents, amis, on se reverra, et même un dimanche de plus, sûr que nos vies d'après seront plus belles, surtout donne-moi des nouvelles.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Partons à la rencontre de Xavier Bazot, venu en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay durant l'été 2010. Il y était d'ailleurs déjà venu en 2002. Xavier Bazot est né en 1955 à Bourges. Il est fils de pâtissier. En 1991, il a obtenu le prix de la ville de Saint-Quentin lors de son festival de nouvelles. Il a travaillé durant plusieurs années pour Emmaüs comme responsable d'un centre d'hébergement d'urgence, et il exerce le métier d'écrire depuis plus de 30 ans. Xavier Bazot reste très sensible à la condition des populations exclues, marginalisées, vagabondes ou nomades, en voyage ou en errance. D'ailleurs, Xavier Bazot a passé 2 ans avec des gens du cirque. Et je vous propose tout de suite de l'entendre évoquer son travail d'écrivain et de revenir sur son parcours. Xavier Bazot, rencontré en juillet 2010 dans Lyon, à Vézelay.
J'ai fait des études de lettres, ce qui ne sert absolument à rien à un écrivain, puisque écrire, c'est avant tout, tout écrivain est un autodidacte. On n'apprend pas à l'université à écrire, on apprend éventuellement à enseigner, et écrire, ça ne s'apprend pas. C'est pour ça, entre parenthèses, que je ne pratique jamais de atelier d'écriture. Et puis après, quand il a fallu que je travaille, je me suis souvenu du conseil de Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune écrivain, à un jeune poète, qui dit « Si vous devez travailler, prenez un métier qui soit le plus possible loin de la littérature ». Ne soyez pas professeur, ne soyez pas journaliste. Prenez un métier manuel, il est préférable d'être menuisier. Et alors, à ce moment-là, bon, j'étais attiré sans doute aussi par les personnes que je pensais y trouver. J'ai travaillé essentiellement avec Emmaüs pendant sur une durée de 5 ans. à différents postes, comme adjoint de responsable dans des communautés, puis comme responsable d'un centre d'hébergement. Et puis, peu à peu, bien sûr, je me suis trouvé confronté à un moment où il fallait choisir entre une carrière à Emmaüs et puis écrire. Mais comme j'avais cette idée-là qui était très lointaine, qui remontait à l'enfance et qui était plus forte, bien sûr, à ce moment-là, j'ai quitté Emmaüs et j'ai quitté en même temps toute idée d'une profession au sens classique, où on l'entend. Et depuis 25 ans, je me consacre à l'écriture. C'est une voie. Hein. J'étais très. Je sais que à l'époque, écrire, je voulais ne faire que ça. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on puisse avoir ce que les écrivains appellent un second métier, qui en fait est un premier métier. Maintenant, bon, ça peut-être à la lecture d'écrivains comme Juan Bennett, par exemple, qui est espagnol et dont le métier est géologue, et qui introduit de façon très intéressante la géologie dans sa littérature. Je me dis aujourd'hui que j'aurais très bien pu avoir un premier métier et écrire ensuite. Donc ma vue a un peu... Bon, mais maintenant j'ai 55 ans, donc c'est pas aujourd'hui que je vais prendre un métier. Et ensuite, il y avait aucun métier qui me disait particulièrement, qui me j'avais idée de faire aucun métier à part d'écrire. Mais je suis un peu revenu sur cette vision que un écrivain doit entièrement se consacrer à l'écriture. J'ai pas d'avis spécialement. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Est-ce que l'artiste en général, est artiste parce qu'il a du mal à se situer dans la société. C'est-à-dire que on pourrait avoir une lecture de l'artiste comme de quelqu'un qui fait le pari social de sauter plusieurs classes sociales à la fois. Si par exemple il arrive à un artiste d'avoir un grand succès, il peut devenir riche par exemple, ou être très rapidement ou bénéficier d'un statut social, d'une reconnaissance sociale qu'il n'aurait pas acquis par les voies normales. Ça peut être une lecture. Et en ce sens-là, choisir d'être écrivain est peut-être un mauvais pari. Il vaudrait mieux être aujourd'hui cinéaste. Et d'ailleurs, peut-être que jeunes cinéastes, il y a 50 ans, 60 ans, seraient devenus plutôt de jeunes écrivains. Enfin, bien sûr, on sait aujourd'hui que le statut d'écrivain n'a plus du tout l'aura qu'il a eu, disons, jusqu'à Albert Camus à peu près. Enfin, c'était un des derniers à bénéficier de cette aura. Bien, ça c'est une lecture. Maintenant que la langue, que l'écriture soit malmenée, que les jeunes lisent moins ou pas du tout, que le travail sur la langue tel que je le pratique soit devienne assez problématique dans un contexte de SMS ou de blog. Bon, là, je sais pas. Bon, c'est ainsi. Je sais pas. Je suis pas forcément pessimiste. Même au sein de la littérature, je suis confronté à ce problème puisque la langue que j'emploie est une langue qui peut difficilement atteindre un grand public parce que mes phrases sont complexes. Enfin, la structure de mes phrases est assez complexe. Je procède à un travail sur la langue qui ne serait presque un travail poétique, une prose poétique. Et je sais que si j'arrive à vendre 1000 exemplaires de chacun de mes livres, je suis content. Je sais que je peux pas atteindre un grand public. Donc voilà, je suis déjà même dans un contexte qui s'intéressera à la littérature, je suis plus presque avec un statut de poésie, dans mon esprit. Voilà. Je suis pas si pessimiste que ça d'ailleurs sur là.
Xavier Bazot, vous serait-il possible de délimiter ou de définir ce que signifie être un écrivain en résidence?
Alors nous avons de multiples formes de résidence. Ce qui serait commun à toutes les résidences, c'est le fait pour un écrivain d'aller vivre à l'invitation d'une structure accueillante, d'aller vivre dans un lieu qui n'est pas le sien. Par exemple, moi j'habite Paris, je viens un mois vivre à Vézelay, ou je vais un mois vivre à Marseille ou dans la campagne, voire dans un pays étranger, parce que le ministère des Affaires étrangères envoie des écrivains à l'étranger dans le cadre des missions Stendhal, par exemple. Alors, le principe de la résidence, ça serait le dépaysement. Que le dépaysement permette à l'écrivain de découvrir d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres réalités qui puissent nourrir et enrichir son écriture. Ensuite, les résidences, il y en a de multiples, et il y a des résidences qui ne sont pas accompagnées de bourses, il y en a qui sont accompagnées de bourses, des résidences où l'on demande à l'écrivain un travail auprès du public, en parallèle de son travail d'écriture, des résidences où on ne demande à l'écrivain que de continuer son travail d'écriture. Là, nous avons toutes les sortes. C'est très riche. C'est très riche. Et c'est vrai que... alors, je reviens aussi sur ce petit problème. Souvent, les résidences... souvent, la société a un peu une vision de l'artiste, de la vocation artistique, une vision religieuse, ne serait-ce que le terme de vocation, et parfois les résidences demandent à l'artiste d'être seul, sans sa famille, selon la phrase un artiste n'a pas de famille. Et parfois je me suis trouvé dans des résidences avec un lit de 90 cm par exemple. C'est très parlant. Oui, c'est très parlant. L'écrivain est seul. Alors j'ai donc une famille, j'ai donc deux filles, et lorsqu'elles étaient petites, nous avons été avec leur maman 5 mois à Saint-Claude par exemple ensemble. Alors bien sûr, quand elles ont été en âge scolaire, j'ai été plus obligé de rester à Paris pour m'occuper d'elles. Maintenant qu'elles ont 12 et 13 ans, elles sont contentes quand je libère un peu l'espace et pour qu'elles aient un peu d'air. Et donc je reprends un peu ce mode de vie des résidences, et qui est de fait un mode de vie nomade. J'ai pas encore fait le tour de ce qui est commun aux populations qui m'attirent, comme les populations tziganes, ça c'est certain, depuis que je suis enfant, des populations que je pensais trouver à Emmaüs, parce que la réalité de ce que j'ai trouvé à Emmaüs était différente de mon fantasme de départ, mais ce sont des personnes, soit dans les cirques, soit les familles manouches, soit les personnes qui passent à Emmaüs, sont des personnes qui ont en commun un certain nomadisme,
qui ont subi ou choisi,
mais qui est quand même choisi à mon avis un peu, qui est tout de même choisi, qui ont aussi une, parce que je réfléchissais à ça, mais le nomadisme souvent se pratique de manière collective aussi. Et alors le collectif, c'est lié à mon enfance quand même, où dans la pâtisserie de mes parents, c'était encore comme ça à l'époque, la vie professionnelle et la vie familiale étaient mêlées. Il n'y avait pas d'appartement privé, l'appartement privé dans l'appartement privé, il y avait des pièces à usage commercial, ce qui fait que le personnel traversait notre vie privée, c'était mélangé. Et ça, j'ai beaucoup aimé, enfin. Alors à Emmaüs, c'est une vie en communauté. Aussi, quand on fréquente un cirque, on vit en communauté. Quand on fréquente des familles manouches, c'est une vie en communauté aussi. Alors ça, c'est peut-être un terrain d'enfance que je poursuis. Le nomadisme, finalement, dans ma vie pratique, je suis pas si nomade que ça, hein, parce que je vis avec ma famille. C'est un rapport aussi à la maison, à la propriété. Ça, par exemple, je vis avec ma famille, mais l'appartement que nous louons, c'est au nom de ma compagne. Enfin, je me suis jamais confronté ni à la possession d'une maison, ni à la location d'une maison. Enfin, je suis toujours un petit peu en retrait par rapport à ce système. de... Bon, alors, chez Bachelard ou chez Thoreau, il y a de belles réflexions sur ça. Et j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'écrire un texte qui s'appelle « Où habiter, où écrire » sur à propos des résidences et à propos de cette de choisir la maison d'élection dont parle Bachelard. C'est-à-dire que pour choisir une maison ou pour choisir une épouse, vous êtes obligé de renoncer aux autres maisons ou aux autres épouses. Donc ça passe par le principe de castration. Et je pense que et il faut bien sûr accepter le principe de castration si vous voulez construire quelque chose. Les personnes que j'ai pu croiser à Emmaüs, ce sont des personnes au départ qui ont refusé le principe de castration. Ne pas s'engager dans une famille, ne pas s'engager dans un travail, rester toujours ouvert à toutes les possibilités. Et ce qui est une situation que l'on connaît, qui est idéale, mais que l'on connaît lorsqu'on a 20 ans. Que l'on n'est pas engagé encore ni dans un travail, ni dans un crédit, ni avec une épouse ou un époux, parce que ça peut bien sûr fonctionner. Et alors, le problème, c'est qu'avec l'âge, si vous continuez comme ça, sans rien construire, en refusant ce principe de castration, et que vous avez 40 ans ou 50 ans, vous risquez un jour de vous retrouver très malheureux et un peu dans un cul-de-sac, parce que vous ne retrouvez pas de travail, parce que vous n'êtes plus aussi peut-être attirant et personne ne veut venir avec vous. Bref, voilà. Donc il faut un jour ou l'autre se mettre à construire et accepter ce principe de castration.
J'ignore comment vous aurez perçu les propos de Xavier Bazot que vous venez d'entendre à l'instant. En tout cas, ce thème du nomadisme qui concerne un certain nombre de populations, hein, les familles manouches, les gens du cirque, les tziganes ou certaines personnes qui choisissent de vivre en communauté à Emmaüs, je trouve que ce thème méritait d'être abordé et c'est aussi pour cette raison que je souhaitais vous le présenter aujourd'hui en nouvelle diffusion et puis également ce principe de castration que développe Xavier Bazot. Je vous recommande de le découvrir à travers ses œuvres. Je mentionne son roman « Tableau de la passion » aux éditions POL. Je vous recommande chaleureusement, je les ai relus encore tout récemment avant la diffusion de cette émission. C'est un recueil de nouvelles de Xavier Bazot, intitulé « Chronique du cirque dans le désert », des textes absolument magnifiques. Vraiment, procurez-vous-les dès que possible, lisez-les, vous saurez les apprécier. C'est aux éditions du Serpent à plumes. De même que « Un fraisier pour dimanche », roman de Xavier Bazot paru en 1996. Un autre recueil de récits, cette fois, au Serpent à plumes et qui a pour titre « Au bord ». Et mentionnons aussi « Quand volant ». Chez Champvallon en 2008. On se retrouve dans une poignée de minutes. Tout de suite, place à Francis Lalanne. Et juste après, le moment viendra de vous saluer et de nous dire au revoir.
Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie. De toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime. Rien ne nous séparera, même pas une chrysanthème. Tu verras, on se retrouvera.
Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, de nous avoir accompagnés en cette fin de matinée sur votre radio locale. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez bien évidemment la retrouver sur Internet, sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Cela vous permet de réécouter l'émission si vous le désirez et surtout d'y retrouver les titres et les références des ouvrages dont il a été question aujourd'hui dans ce Radio Archive. Je vous remercie chaleureusement de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine. Et puis, bien évidemment, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 25 avril, toujours à 11h, sur Radion 90.5 dans Lyon ou alors aux quatre coins de la Bourgogne ou de France sur le www.radion.fr. Encore merci de votre écoute. Au revoir et à samedi prochain.